Bonjour à tous. Un jour viendra où Marine Le Pen fera comme moi, Gilbert Collard, claque la porte du Rassemblement National et rejoint Éric Zemmour. Le RN demande à l'eurodéputé de démissionner de son mandat. La violence en politique contre les élus. 3 personnes mises en examen après l'agression début janvier à Saint-Pierre-et-Miquelon du député LREM Stéphane Clairaut. Précision dans un instant. L'ombre d'un conflit majeur à l'Est, la rencontre hier entre Américains et Russes n'a pas permis d'apaiser la crise en Ukraine. Invité de ce journal, Arnaud Dubien, directeur de l'Observatoire franco-russe de Moscou. Dans ce journal également, les frais d'inscription à l'université n'augmenteront pas. Et nous irons à Kitzbühel, en Autriche, pour la première manche de slalom de Coupe du Monde de ski alpin. La météo partagée en deux, soleil au sud, nuage au nord. Jean-Michel Golinski, à la fin de cette édition, à 13h20, secret d'info, au programme aujourd'hui Jacques Monin.
Vous vous souvenez du fiasco des 12 sous-marins que la France devait livrer à l'Australie? Eh bien, nous avons identifié les hommes clés qui étaient à la manœuvre et nous allons vous raconter ce qui s'est passé en coulisses.
Jacques Monin, après ce journal.
France Inter.
Les images avaient choqué par la violence de la foule lors d'une manifestation contre le pass sanitaire. 2 semaines après l'agression du député LREM, Stéphane Clairaut, devant son domicile à Saint-Pierre-et-Miquelon, 2 hommes et une femme ont été interpellés et mis en examen. Cela ressemblait à une lapidation, a été expliqué Stéphane Clairaut. Les gendarmes poursuivent leur enquête. Tous les auteurs de l'agression n'ont pas encore été identifiés, Charlotte Piret.
C'est l'exploitation par un spécialiste des technologies numériques d'une dizaine de vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, mais aussi des auditions de témoins, une trentaine, qui ont permis aux enquêteurs de la Gendarmerie nationale d'identifier 3 personnes. Un homme soupçonné d'être celui qui a arraché le masque du député, une femme et un autre homme ont quant à eux été identifiés comme auteurs de lancers de goémon au visage de l'élu. Ces 3 manifestants anti-pass sanitaire ont été interpellés ce jeudi, soit plus de 10 jours après les faits. Placés en garde à vue puis mis en examen, ils sont ressortis libres mais sous le coup d'un contrôle judiciaire qui les interdit de tout contact avec le député La République En Marche ou encore de toute participation à une manifestation. Ces 3 interpellations ne sonnent cependant pas la fin des investigations. Les enquêteurs espèrent ainsi identifier d'autres auteurs de cette agression, notamment celui qui aurait lancé un galet passé à 5 cm de la tête de Stéphane Clairaut, selon le témoignage de ce dernier. Rappelons, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, que le nombre de menaces graves à l'encontre d'élus est lié à la gestion de la crise sanitaire s'élève depuis juillet à 534.
La politique ce week-end avec aujourd'hui la rupture entre Gilbert Collard et le Rassemblement National de Marine Le Pen, le médiatique eurodéputé, rejoint Éric Zemmour. Gilbert Collard claque la porte de son parti en promettant qu'il y aura d'autres ralliements. Maxence Lambrec avec France Bleu Gard-Lozère et France Info.
C'est la branche identitaire du RN qui est en train de craquer, celle qui a ses racines dans le sud de la France, qui a toujours rêvé de l'union des droites et qui, depuis 2017, ne croit plus en la victoire de Marine Le Pen. Gilbert Collard évoque un mouvement de fond.
Vous n'imaginez pas le nombre de gens du Rassemblement National qui, sans avoir de désamour avec Marine, faut pas tout confondre, savent que la vibration, quoi, le rythme, il est passé maintenant du côté de Zemmour. C'est injuste, hein. Mais c'est malheureusement le mouvement de l'histoire, le mouvement de la vie. Passe le temps et l'usure se fait. Je pense qu'un jour viendra où Marine Le Pen fera comme moi.
L'usure se fait, tout est dit. Il faut voir les meetings, les audiences télé, les réseaux sociaux. La dynamique est de son côté, admet un cadre du RN. Le plus probable, c'est que Marion Maréchal le suive d'abord et ce serait alors un symbole bien plus fort. Pour l'instant, au RN, on ne peut que minimiser.
C'est pas une figure. Qu'est-ce qu'il faisait pour le RN depuis 3 ans?
Le maire de Perpignan, Louis Alliot, voit dans Gilbert Collard une girouette.
Et si on ne le mettait pas sur liste européenne, il partait chez Dupont-Aignan, donc ses convictions sont à géométrie variable.
Il avait en effet brandi cette menace en 2019.
Vous savez, on a perdu finalement 2 députés européennes dans la semaine, mais je viens de voir que dans la même semaine, on a pris 2 points dans les enquêtes d'opinion.
Les sondages, c'est ce qui fait tenir la maison Le Pen, en moyenne 4 points d'avance sur Éric Zemmour. Mais rien n'est écrit, il reste 2 mois et demi, s'inquiète un proche de Marine Le Pen.
À gauche, la primaire populaire annonce que plus de 350 000 personnes sont inscrites pour le vote dit d'investiture à la fin du mois. Le week-end dernier, la primaire populaire a donné la liste des 7 candidats, dont certains refusent pourtant d'être associés à cette initiative. Une primaire sans consentement, notamment pour Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo. La porte-parole de la primaire populaire, l'écologiste Mathilde Himmer, était l'invitée ce matin de Karine Bécard sur France Inter.
Aucun des noms ne sera retiré, on n'est pas une primaire classique, on est une investiture populaire. On les a écoutés pendant longtemps, et je le redis, on a laissé la porte à ce qu'ils puissent se rassembler. Je le répète, 85% de leurs électeurs souhaitent le rassemblement. Qui écoute qui? Normalement, les partis politiques et les candidats sont là pour faire gagner nos valeurs, sont là pour écouter leurs électeurs et mettre en place ce qu'ils souhaitent. Là, c'est l'inverse. Et donc, ce qu'on propose, nous, c'est faire écho à cette volonté de 85% d'électeurs. Et je précise que 73% d'entre eux souhaitent que ça passe par un vote. Et c'est majoritaire chez la France Insoumise, chez Écologie Les Verts, au PS. Donc, en réalité, ce qui est autoritaire aujourd'hui, c'est d'avoir 5 candidatures qui fait qu'on est sûr de perdre en 2022.
Mathilde Himmer avec Karine Bécard. La vente d'autotests en grande surface prolongée jusqu'au 15 février. Le gouvernement estime que dans la stratégie de dépistage, la vente d'autotests a permis de faire face à la très forte demande. Sur le front de l'épidémie, si le pic se fait attendre, la pression baisse en réanimation. Mais les hôpitaux manquent de personnel et pour faire face au manque d'infirmiers en pleine pandémie, l'Agence régionale de santé de l'Île-de-France a décidé de sortir les grands moyens et propose une prime allant de 4 000 à 7 000 euros à tous les infirmiers intérimaires qui souhaiteraient rejoindre l'hôpital. Il manque 3 000 postes en Île-de-France. Mais pour le porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers, ce n'est pas forcément une bonne mesure. Thierry Amouroux sur France Info.
Ça donne un sentiment d'injustice chez les professionnels infirmiers qui sont restés en place à l'hôpital malgré la dégradation continue des conditions de travail, malgré le nombre d'heures supplémentaires importants. Eux sont sous-payés. Une infirmière débute à 1800 euros net. Nous sommes moins 10% sous le salaire infirmier européen. Et le résultat, c'est que on a l'impression qu'on incorpore des mercenaires dans l'armée régulière. Ça risque d'avoir l'effet pervers, inverse, c'est-à-dire que des gens qui sont à l'hôpital aujourd'hui se disent « mais pourquoi je vais rester à être sous-payé 1800 euros alors que je peux prendre ce statut de contractuel où je serai payé nettement plus ?» Ça risque d'ubérisation de la santé et nous, ça nous interpelle fortement.
Thierry Amouroux, représentant des infirmiers. La question avait fait le tour des facs. Allait-on vers la fin de la quasi-gratuité à l'université? À demi-mot, la semaine dernière, Emmanuel Macron a mis sur la table la question de l'augmentation des frais d'inscription à l'université, estimant qu'on ne pourrait pas rester durablement dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants. Tonalité différente ce matin de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, affirme que la grande réforme universitaire évoquée par Emmanuel Macron ne passera pas par une hausse des frais de scolarité.
Moi, ça fait 5 ans que je suis là. On a gelé les droits d'inscription pendant 3 ans. On a gelé les loyers des Crous. On a augmenté les bourses sur critères sociaux. Il n'y a jamais aucune demande de travailler sur cette question.
De quelle réforme ?
Il faut changer cette question de comment peut-on avoir des étudiants et un système de bourse qui protège les jeunes de la précarité. Et ça, visiblement, c'est un échec. On a effectivement un tiers des étudiants boursiers. Et pourtant, on a vu à quel point il y avait encore des étudiants précaires. Donc, il faut repenser ça. Et puis, la deuxième chose, c'est comment est-ce que les universités s'emparent de la question de l'insertion professionnelle tout au long de la vie, avec la formation continue, avec la formation tout au long de la vie. Mais dans son discours, à aucun moment, il n'a évoqué un levier qui serait d'augmenter les droits d'inscription.
Frédérique Vidal sur France Info. Quelle issue pour la crise en Ukraine et la menace militaire russe qui pèse sur ce pays? La rencontre hier à Genève entre le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken et son homologue russe Sergueï Lavrov n'a pas permis d'apaiser la crise. Les arguments sont connus, les désaccords actés, les accusations mutuelles aussi, mais la rencontre d'hier a tout de même permis de maintenir le fil du dialogue. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour Frédéric.
Et Russes et Américains se sont donné rendez-vous la semaine prochaine.
Voilà, les Américains doivent en effet répondre par écrit aux Russes, mais pas forcément aux demandes formulées par le Kremlin, jugées de toute façon inacceptables, que ce soit le retrait des forces de l'OTAN des pays d'Europe orientale ou le renoncement à l'extension de l'Alliance, notamment à l'Ukraine. L'Ukraine qui s'inquiète, cernée qu'elle est par quelques 100 000 militaires russes à ses frontières, avec désormais aussi au nord une Biélorussie sous l'emprise de Moscou. Le bruit de la guerre ne s'est de fait jamais tu en Ukraine depuis le conflit en 2014. Mais la Russie maintient la pression. Kiev l'accuse de renforcer les capacités de combat des séparatistes du Donbass et voit aussi la main du Kremlin derrière la dernière cyberattaque ou une vague de fausses alertes à la bombe. Les pays baltes, eux, musclent la sécurité à leurs frontières avec le voisin russe et chacun se réarme dans la région et, comme au temps de la guerre froide, tente de décrypter les intentions de Moscou. Vladimir Poutine peut en tout cas se targuer de cette première victoire en bousculant l'agenda diplomatique de la première puissance mondiale, en écartant l'Europe des discussions ayant trait à sa sécurité, en forçant chacun à se positionner face à ses initiatives. C'est lui qui donne le tempo.
Marie-Pierre Véraud, merci. Invité de ce journal, Arnaud Dubien, directeur de l'Observatoire franco-russe à Moscou et chercheur associé à l'IRIS. Bonjour Arnaud Dubien.
Bonjour.
Alors le dialogue va se prolonger et reprendre entre Russes et Américains. Est-ce que, avec cette crise ukrainienne, nous sommes pour la première fois depuis la fin de la guerre froide au bord d'une guerre chaude, selon vous ?
En tout cas, la situation est inquiétante, cela a été dit. Elle est inquiétante parce qu'il y a environ 100 000 soldats russes qui sont déployés aux frontières de l'Ukraine, que de nouveaux exercices vont avoir lieu dans les semaines qui viennent en Biélorussie, au nord de l'Ukraine. Elle est inquiétante aussi parce que ces derniers jours, ces dernières heures, les Occidentaux livrent des armes à l'Ukraine, les pays baltes, le Royaume-Uni, les États-Unis, et que ce sera sûrement interprété à Moscou comme une forme d'escalade, voire comme une provocation. Alors ceci dit, le dialogue n'est pas rompu, personne n'a claqué la porte, Russes et Américains vont se revoir, vont se reparler, on ne peut pas exclure que les présidents, Poutine et Biden, se reparlent la semaine prochaine ou au courant février. Les choses seront vraiment inquiétantes si les lignes ne bougent pas, si les discussions ne produisent aucun résultat d'ici la mi-février.
Mais Arnaud Dubien, vous croyez une intervention militaire russe en Ukraine, c'est possible ?
Il faut partir du principe que tout est possible. Ceci dit, entre l'invasion massive, l'occupation de l'ensemble du territoire ukrainien et un scénario qui verrait Poutine, passez-moi l'expression, manger son chapeau, il y a toute une gamme d'initiatives possibles de part et d'autre. Et puis, on ne peut pas exclure non plus qu'un compromis soit trouvé. Qu'un compromis, en particulier sur le contrôle des armements en Europe, sur les activités militaires dans l'espace Baltique-Mer Noire, et que les choses progressent sur un dossier qui, formellement, ne fait pas partie des choses que les Russes ont mis sur la table, mais qui les intéresse très directement, ce sont les accords de Minsk sur le Donbass. Les accords de Minsk, je le rappelle brièvement, leur volet politique en particulier, est très favorable aux intérêts russes. Si les Occidentaux font ce qu'ils pour l'instant n'ont jamais véritablement fait, et ce que souhaitent les Russes, c'est-à-dire faire pression sur Kiev pour que les Ukrainiens fassent leur part du chemin, ça peut aussi, je pense, entrer en ligne de compte.
Arnaud Dubien, est-ce que l'OTAN, c'est vraiment l'épouvantail pour Vladimir Poutine, et cette question de l'expansion de l'OTAN aux pays voisins et proches de l'URSS dans cette Europe de l'Est, de la Russie dans cette Europe de l'Est, est-ce que Vladimir Poutine a réellement peur de l'OTAN, ou bien est-ce qu'il a une autre hantise, à savoir le risque d'une contagion démocratique à l'occidental, aux portes de la Russie, aux portes de chez lui ?
Ce sont deux sujets très différents. Il y a, côté russe, la volonté de mettre un terme à ce que la Russie perçoit comme sa marginalisation stratégique sur le continent européen, marginalisation symbolisée par les élargissements successifs de l'OTAN. Au fond, ce que Poutine cherche à faire, c'est provoquer une discussion sur le réaménagement de l'ordre post-guerre froide, sur l'architecture de sécurité en Europe. C'est, au fond, retrouver voix au chapitre, ce que la Russie a toujours eu depuis, en tout cas, Pierre le Grand, et jusqu'à une date récente. La deuxième question sur la menace, entre guillemets, démocratique, je pense que c'est effectivement très répandu, c'est un narratif très répandu, notamment dans la presse anglo-saxonne, un peu parfois aussi en France, mais ça n'a pas beaucoup de crédibilité. D'abord parce que il y aurait beaucoup à dire sur la réalité de la démocratie ukrainienne. Je rappelle que les leaders des deux principales formations d'opposition, l'ancien président Porochenko et le leader du parti pro-russe, sont aujourd'hui assignés à résidence. Les oligarques, malgré quelques réformes, continuent à contrôler le pays. Par ailleurs, l'Ukraine est avec la Moldavie le pays le plus pauvre d'Europe. Donc ce n'est pas véritablement ce qui fait rêver les masses russes. Par ailleurs, il faut le rappeler, Vladimir Poutine n'est pas inquiet pour son propre pouvoir. D'abord parce qu'il a mis hors jeu l'opposition dite hors système. Alexei Navalny est en prison depuis un an et encore pour longtemps, semble-t-il. Et surtout, il n'y a pas d'appétence majoritaire parmi les Russes pour une révolution, un changement de régime, ni même d'ailleurs pour un hypothétique modèle occidental.
Arnaud Dubien, directeur de l'Observatoire franco-russe à Moscou. Merci à vous. à l'étranger en Allemagne, un congrès de la CDU pour effacer un traumatisme électoral. Après 16 années de pouvoir et de départ d'Angela Merkel, les conservateurs ont signé le score le plus faible de leur histoire législative de septembre dernier, en cause une campagne électorale mal préparée et conduite avec une certaine désinvolture par le président de la CDU, Armin Laschet, contraint de remettre sa démission et de convoquer un congrès extraordinaire ce week-end à Hanovre. La CDU, en crise profonde, doit entériner l'élection de son nouveau dirigeant. Il s'agit du candidat le plus conservateur, Friedrich Merz, 70 ans, portrait du nouveau leader chrétien-démocrate, Ludovic Piétenu.
C'est peu de dire qu'il veut mettre un terme à la longue période dite mythe, devise depuis 2007 d'une CDU qu'Angela Merkel a positionnée au centre. Sa nouvelle ambition idéologique est néolibérale et conservatrice et rejetée lors des deux derniers congrès par les 1001 délégués du parti qui font toujours le choix de la continuité. On connaît la fin de l'histoire, la gifle électorale entraîne un appel à la rénovation, les adhérents sont invités pour la première fois à désigner leur dirigeant à l'occasion d'une primaire. Ici, on entend l'annonce du résultat. Résultat au mois de décembre. Friedrich Merz réunit 62,1% des voix. Ses partisans l'apprécient car il polarise l'opinion. Sa droite est assumée, son libéralisme est décomplexé. Tout marche tant qu'il s'éloigne du centre politique occupé par l'ex-chancelière, pour qui il nourrit depuis 20 ans une profonde inimitié. En cela, Merz et Merkel rappellent la brouille au sein de la droite française entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Comme lui, Merz a connu une longue traversée du désert, humilié par Merkel, il signe son retour, comme Sarkozy il y a plus de 15 ans, sur le mode de la rupture. Il expliquait au début du mois vouloir, je cite, « la ranger, elle et ses ombres, au plus vite, dans les livres d'histoire ». Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Et on prend la direction de Kitzbühel, en Autriche, pour la Coupe du Monde de ski alpin. Et nous sommes à un peu moins de 15 jours des Jeux d'hiver de Pékin, avec aujourd'hui le slalom homme, avec deux Français spécialistes de l'épreuve, Clément Noël et Alexis Pinturo. Sur place à Kitzbühel, Guillaume Batin.
Il neige en abondance depuis 24 heures sur la station tyrolienne et partir avec le dossard numéro 1 n'est jamais un avantage. Dans ces conditions, la neige est collante et ralentit la glisse, ce qui n'a pas empêché le Vosgien Clément Noël de claquer un très bon temps, 50 secondes 67, 8 centièmes seulement de plus que le meilleur temps signé par l'Italien Alex Vinatzer. Clément Noël.
Ouais, les sensations n'étaient pas très bonnes parce que c'était difficile. Bon, la piste, on le sait, elle est difficile. Mais en plus, la neige, elle était assez vaguelée. Donc, j'ai eu du mal à prendre bien mes appuis comme je voulais et tout. En arrivant en bas, je me suis dit que c'était vraiment pas une très bonne manche. Mais finalement, c'était difficile pour tout le monde. Tout le monde a un petit peu eu du mal à poser son ski. Donc voilà, la fin, c'est une plutôt bonne manche en termes de classement, quoi. Mais du coup, ouais, ça devrait faire une belle bagarre à la deuxième. Donc, on va essayer d'aller à fond.
Alexis Pinturo est dans le coup, lui aussi. Il pointe à 91 centièmes du leader. Mais la concurrence sera dense pour une place sur le podium en début d'après-midi. Ils sont 9 skieurs à moins d'une seconde. Kitzbühel, Guillaume Batin, France Inter.
En rugby, un autre match de Coupe d'Europe. Racing 92, Northampton annulé pour cause de cas de Covid. Le Racing est déclaré vainqueur et se qualifie pour les huitièmes de finale. On termine avec le choix culturel pour ce week-end, avec l'une des stars les plus populaires des années 80 et 90, avant de disparaître petit à petit des écrans. L'acteur américain Val Kilmer, l'Iceman de Top Gun, aujourd'hui 62 ans, revient dans un documentaire Val, présenté au dernier Festival de Cannes et disponible à la location sur les plateformes de vidéo à la demande. Radiographie émouvante par Val Kilmer lui-même d'une carrière chaotique, Alexandra Akoun. I am a
cinematographer. Val Kilmer a toujours filmé sa vie, de ses premiers courts-métrages avec ses frères dans l'enfance, à ses préparations d'audition, les coulisses de ses tournages, les premiers pas de ses enfants, une matière foisonnante qui sert de base au documentaire dans lequel celui que le public surnomme encore Iceman, 36 ans après la sortie de Top Gun, ausculte sa carrière. Privé de sa voix par un cancer de la gorge et une trachéotomie, son fils Jack lui prête la sienne.
Croyez-le ou non, mais au début, je voulais pas faire Top Gun.
Considéré comme un acteur difficile, voire ingérable, Val Kilmer donne ici sa version des faits, celle d'un comédien intransigeant qui rêvait de jouer Hamlet sur scène et dont les ambitions seront broyées au fil des ans par Hollywood. Batman Forever et sa prestation moquée par les critiques en 95, la faute au bas de costume, explique-t-il.
J'ai dû lutter pour livrer une bonne interprétation malgré le costume, jusqu'à ce que je comprenne que mon rôle dans ce film consistait simplement à me poster là où on me disait.
L'acteur passe ainsi au crible tous ses grands rôles, le tournage des Doors, qui lui le coûte à son mariage, celui de l'île du docteur Moreau qui vira au naufrage. Surtout, il se laisse filmer dans ce qu'il est aujourd'hui, un homme physiquement diminué qui continue à sillonner les États-Unis pour rencontrer ses fans et éponger ses dettes, conscient que ce qu'il vend, c'est le Val Kilmer d'avant, une honnêteté à laquelle Hollywood nous a peu habitués et c'est bouleversant.
Alexandra Hakoun, le temps pour les heures qui viennent et pour demain.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
Persistance d'une situation anticyclonique de blocage, comme ces derniers jours et pour les jours suivants, avec comme conséquence un ciel toujours assez bien dégagé aujourd'hui dans la partie sud de l'Aquitaine à la Méditerranée, et une ambiance beaucoup plus chargée sur une large moitié nord, où les trouées seront aléatoirement réparties, avec une meilleure chance d'éclaircie sur les côtes de la Haute-Normandie au Cap-Grinet et de la Charente-Maritime au Finistère. Les températures ne changent pas non plus, avec un maximum de 3 à 5 degrés du Grand Est à Rhône-Alpes et sur l'Auvergne, 10 à 14 près de la Méditerranée et 6 à 9 sur les autres régions. Demain sera quasi un copier-collé d'aujourd'hui, c'est-à-dire bleu au sud, souvent gris au nord, avec à nouveau de fortes gelées nocturnes sur les régions méridionales, jusqu'à moins 7 degrés en particulier dans le quart sud-ouest.
Jean-Michel Golinski de Météo France.